Mondial Sport, Christophe Diremzian.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver pour Mondial Sport, les plus grands exploits aux quatre coins du globe, quelles que soient les capacités physiques de leurs auteurs, qu'elles soient normales, exceptionnelles ou amoindries. Et s'il y a bien quelqu'un qui peut se vanter d'avoir surmonté le handicap qu'il subit depuis sa naissance, c'est bien lui, Oumar Koné, légende méconnue du para-athlétisme africain. Le paradoxe des mots est bien réel. Fierté de la Côte d'Ivoire grâce à son palmarès de 83 médailles à faire pâlir d'envie n'importe quel sportif, mais qui n'a pas récolté beaucoup de fruits de sa gloire. On lui rend justice aujourd'hui. Lui, l'ancien athlète, désormais entraîneur d'une jeune génération de la piste, désireuse de grandir à ses côtés. Il va nous parler de ses souvenirs paralympiques, de sa situation actuelle et de ses espoirs avec le témoignage d'hommes qui l'apprécient comme vous, Malik Dao. Bonjour.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Familier de Mondial Sport, compatriote d'Oumar Koné, vous livrerez votre regard sur l'homme et ses exploits. Et puis en fin d'émission, c'est l'histoire presque tout entière du paralympisme qu'on évoquera à travers la prochaine tenue à Paris d'une exposition consacrée à ce mouvement qui a réussi au fil des décennies et contre vents et marées à développer et structurer l'émancipation des personnes en situation de handicap. Mais avant cela, déjà dans les starting blocks, Sarah Lou Bacouche pour les points chauds, l'actualité sportive. Bonjour Sarah Lou.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Alors on débute ce tour d'horizon de l'actualité sportive avec du football et malheureusement une nouvelle qui nous est parvenue aujourd'hui. Un acteur majeur du foot africain, Renford Kalaba, victime d'un accident de voiture.
Oui, le Zambien, capitaine emblématique du tout-puissant Mazembe, serait selon nos informations toujours hospitalisé alors que des rumeurs annonçaient sa mort cet après-midi. Le maestro, comme on le surnomme, champion d'Afrique 2012, a 37 ans. Renford Kalaba, c'est 17 titres avec les Corbeaux, 9 championnats, une Ligue des Champions, 2 Coupes de la Confédération et 2 Super Coupes de la CAF.
Voilà, donc on reste extrêmement prudent sur la santé de Renford Kalaba. On vous tiendra évidemment informé dans les heures qui viennent sur l'antenne de RFI. En Europe, Sarah Lou, les championnats reprennent après une folle semaine en Ligue des Champions. En Angleterre, Manchester City a frappé très fort encore.
Oui, les Sky Blues avaient déjà livré cette semaine une performance remarquable contre le Real en quart aller de Ligue des Champions, 3 partout. Et aujourd'hui, ils ont remis ça en corrigeant Luton 5-1 avec notamment un but d'Erling Haaland qui avait été bien critiqué pour sa performance à Madrid et qui a su faire taire les médisants.
Et en Liga justement, l'Atlético de Madrid à la lutte pour se hisser à la 3e place du podium.
Avec une très belle performance contre Gérone, victoire 3-1, 2 points séparent maintenant les deux clubs. Les Madrilènes qui ont su apprécier le doublé d'un revenant, Antoine Griezmann, encore une fois décisif. On suivra évidemment le match du leader madrilène, le Real, dans 20 minutes. Il sera face à Mallorca, 15e de Liga. Et puis à 19h, temps universel, le Barça sera sur la pelouse de Cadiz.
Avec peut-être un petit nouveau dans l'effectif catalan.
Oui, un jeune talent sénégalais, Mikhaïl Faye, 19 ans, né à Sédiou. Il a été formé au FC Diambars, arrivé au Barça l'été dernier. Alors pour l'heure, il n'a joué qu'avec l'équipe réserve, mais il pourrait bien faire ce soir ses débuts au FC Barcelone.
Allez, direction l'Allemagne maintenant, où s'écrit une nouvelle page de l'histoire du football.
En Bundesliga, pas vraiment de suspense concernant le titre. Le Bayer Leverkusen, leader, est loin, très loin devant son dauphin, le Bayern. 13 points d'avance. Si le Bayer bat Werder demain, ils seront sacrés champions. Une première pour le club qui bat des records cette saison. Une série d'invincibilité historique. 42 matchs sans défaite pour cette formation menée par Xabi Alonso. Le Bayern aurait même pu être titré dès aujourd'hui en cas de défaite du Bayern et de Stuttgart. Mais les Bavarois l'ont emporté 2-0 face à Cologne. Quant à Stuttgart, eh bien, ils rencontrent Francfort à 16h30, temps universel.
Et comme il n'y a pas que le foot dans la vie, on termine avec un petit mot de rugby.
Oui, la Coupe des Champions choquant vue entre Leinster et La Rochelle pour décrocher un ticket pour les demi-finales de cette compétition. Une rivalité en passe de devenir historique puisque Leinster ne cesse de s'incliner face à La Rochelle dans le dernier carré de la Champions Cup. En demi-finale en 2021, en finale en 2022 et en 2023. Alors est-ce que les Irlandais vont réussir à faire mentir l'histoire? Eh bien on le saura ce soir, puisque le match débute dans quelques minutes.
Et le résultat, bien sûr, sera à suivre dans les journaux et les prochains journaux des sports de RFI. Merci, Sarah Louf.
À lui lui seul, il comptabilise 83 médailles, toutes compétitions confondues, tant chez les athlètes paralympiques que chez les valides. Kone Ouma est un vrai monument du sport avec un palmarès impressionnant. Un parcours cependant difficile, car parsemé de frustrations et moult difficultés.
Difficile aussi de faire plus concis que ces quelques secondes introductives extraites d'un reportage de la RTI, la radio-télévision ivoirienne, pour résumer un athlète au palmarès hors norme à qui la vie n'a pas fait de cadeau dès la naissance et pas forcément honoré à son juste mérite dans son propre pays. Il a brillé dans l'univers du paralympisme, mais il transmet aujourd'hui son expérience et son espoir à des jeunes sportifs en situation de handicap. Ce champion ivoirien est en ligne aujourd'hui de Trècheville. Bonjour Omar Kone.
Bonjour.
83 médailles, 61 en or dans plusieurs disciplines du para-athlétisme. Vous avez couru le 200 jusqu'au 1500 mètres. Vous avez connu la gloire aux Jeux paralympiques d'Atlanta, puis de Sydney en 2000. Puis évidemment, connu des titres chez les valides. Et tout ça avec un bras droit largement amputé. Omar Kone, avec le recul, cette carrière et votre réussite dans le sport, vous les voyez un petit peu comme une revanche sur le sort ?
Mais c'est pas totalement une revanche, mais c'était comme un message. Il voulait lancer un message à toute la nation ivoirienne, surtout à ceux qui se disent le normaux, parce qu'il y a tellement réussi des frustrations dans mes débuts. Donc c'est un message que je voulais lancer à toute la nation ivoirienne, surtout à la personne qui a une situation de handicap. Donc voilà pourquoi je me suis lancé dans ces défis, parce que j'aime tout ce qu'on appelle les défis.
Vous avez commencé l'athlétisme en 94-95, c'est ça, avec les valides en plus. Comment est-ce que vous avez décidé de choisir ce sport ? Je sais que vous avez commencé par le cross notamment.
Oui, un soir, j'étais comme ça, j'ai regardé la télévision ivoirienne où il y a la Fédération ivoirienne d'athlétisme qui faisait une annonce où ils disent que cross populaire, tout le monde peut participer. C'est comme ça, je suis venu une fois participer le cross avec les valides. Bon. Ce jour-là, celui qui donne les dossards, qui faisait les inscriptions, il me regarde. Et il me demande, vous allez courir? J'ai dit, oui, je vais courir. Il me dit d'attendre. D'abord, il va demander à le comité d'organisation, est-ce qu'on peut me donner un dossard pour que je cours? Mais le monsieur est venu, il dit, mais c'est ses pieds qui courent, c'est pas ses bras qui courent. Et voilà comment ça a commencé depuis dans les années 94-95. J'ai fait pratiquement tous les crosses de la ville d'Abidjan. J'ai fait 10 crosses, j'ai fait 8, j'ai gagné tous les 8. Donc les deux autres, il y avait une sélection pour aller en Égypte avec les non-valides. Donc voilà comment j'ai commencé avec les valides et me suis intégré parce qu'il y avait tellement de frustrations, de frustrations, comment quelqu'un qui n'a pas un bras, il arrive à courir avec les valides. Franchement, dis donc, c'était pas facile au début. Voilà, comme ça, il est débuté.
Malik Dao, spécialiste basket, vous avez évidemment suivi le parcours d'Omar Kone en athlétisme. Vous avez suivi sa carrière, ses exploits. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce parcours ?
Mais beaucoup d'admiration pour Omar, que j'appelle champion. Je l'appelle rarement Omar, moi je l'appelle champion. Parce que j'ai connu Omar quand j'étais étudiant à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports, à l'INGS, Marc Corrie. Déjà Omar, il s'entraînait là-bas. Et puis je l'ai vu en compétition entre le stade Champroux, le stade au Fout-Boigny et les entraînements à l'INGS. C'est vrai que c'était impressionnant de le voir courir avec des valides qu'il mettait à l'amende. Toujours avec le sourire. Parfois, je me demandais, mais d'où il va chercher ce coffre ? Parce que la répétition des efforts, c'était pas un problème pour lui. Et voilà, beaucoup de respect pour toi, en tout cas, champion.
Merci Malik.
Belle forme de reconnaissance de la part de Malik Dao. Omar Kone, on va continuer à parler de vous dans un instant, à la fois sur votre palmarès et sur un plan plus personnel. Avant, on va se rendre là où vous résidez maintenant, à Trècheville, une des communes du district d'Abidjan. Vous avez vos habitudes, vos amis d'enfance, vos connaissances et vos élèves sur la piste, pour qui vous êtes une vraie source d'inspiration et parfois même plus que ça, comme a pu le constater notre correspondant Mo Lavine Sissavané, qui est allé rencontrer votre entourage.
Il regarde, il s'est dit que c'est son parking, il regarde là et puis il s'en va. Après il récupère pour aller faire son sport, tranquille quoi.
Trècheville, avenue 8, rue 24. Un magnifique vélo vert fluo est garé devant la boutique de Mélania. C'est celui d'Omar Kone. Une rue sépare la maison d'Omar et la boutique de pièces d'automobile de Mélanie où l'athlète passe beaucoup de temps. Les deux amis, presque complices, se connaissent depuis leur tendre enfance.
On a grandi tous ensemble ici. Il travaillait juste en face. Pour moi, j'étais en face. C'est plus un ami, c'est un frère pour moi. Parce qu'il passe toute la journée avec moi ici. C'est plus qu'un frère pour moi. Il est très gentil, il est ouvert, il est sociable. Il partage beaucoup. Il taquine beaucoup, il joue beaucoup. Il n'est jamais fâché. Quand tu le vois, il n'est jamais triste. Il est toujours en joie.
Omar Kone est connu ici pour sa bonne humeur et sa gentillesse avec tout le monde, à l'instar d'Ousmane Babalaki, mécanicien.
Vraiment, Omar, c'est un frère à moi. On est ici ensemble, on cause, on se taquine, c'est ici, il passe avec son vélo. Souvent, quand il joue avec ses médailles ici au dehors, vraiment, on est beaucoup fiers de ça. On lui tire le chapeau. Le gouvernement même n'arrive pas à faire quelque chose pour moi-même là. Nous-mêmes, ça nous fait beaucoup mal. Mais essayez de voir aussi ce qu'il pouvait faire pour lui, vraiment.
Le palmarès d'Omar Kone impressionne même ses proches, tout comme ça les remplit de fierté. Mélania évoque son parcours.
J'ai suivi un peu, mais avant, ça n'avait pas encore pris de l'ampleur comme ça. Sinon, je le voyais courir à tout moment. On ne savait pas qu'il était si grand.
Et là, aujourd'hui, il entraîne des jeunes gens. Comment il fonctionne avec eux dans le quartier, ou bien?
Il est tout le temps avec eux. Ils sont tout le temps ici, les dimanches surtout.
Parmi ces athlètes dont Omar Kone est le coach, figure Draman Traoré. Ce jeune travaille près de chez Omar comme vulcanisateur. Séduit par le défilé incessant des athlètes, il est devenu l'un d'eux en 2020.
Quand il vient souvent avec ses athlètes, il essaie de causer avec lui en amusement. Un jour, il m'a fait une test sur goudron là. J'ai commencé l'entraînement là, petit, jusqu'à... Je ne suis pas fort, mais je suis toujours parmi les forts.
Et vous, quels sont vos rêves? Vous avez envie de devenir un grand athlète connu en Afrique aussi?
Oui, dans le monde entier même. C'est mon rêve d'être un grand athlète. Plus que connu moi-même.
L'élève qui veut donc dépasser son maître. Difficile mais pas impossible pour Draman Traoré pour qui Omar Kone est un maître exigeant et par-dessus tout, attentionné et généreux.
C'est un coach, même si tu ne viens pas à l'entraînement, c'est lui-même qui va t'appeler « Ah mon petit, tu as quoi ?» Souvent même, tu n'as pas jeton pour venir à l'entraînement, c'est lui-même qui est prêt. Et si tu viens à retour, je peux te donner les transports. Il est gentil avec tout le monde, c'est comme ça. Si tu as avec lui, tu es là, marché au quartier. Et connaissez comment. Il sait partout dans 13 villes là. Il est tranquille quoi.
Tranquille dans la vie avec un entrain communicatif, dévoué au sport avec une passion contagieuse. Mo Lamine Sissavane, Abidjan, RFI.
Omar Kone, vous avez entendu ce reportage, vos protégés, votre entourage qui met un peu en avant vos qualités, votre valeur, vos mérites, vos valeurs. On a compris que la reconnaissance, c'était pas vraiment ce qui avait caractérisé jusqu'à présent les autorités ivoiriennes. Hein. Vous étiez de retour de compétition à chaque fois qu'une médaille, il n'y avait pas beaucoup de monde à l'aéroport pour vous accueillir.
Je me dis chaque fois, peut-être que... Franchement, il faut dire qu'en 96, ma première médaille d'or aux Jeux paralympiques à Atlanta en 96, où ça fait boum sur la une dans les journaux derrière moi aussi, en disant que la première médaille d'or de Côte d'Ivoire aux Jeux paralympiques, je me dis waouh, dès quand je rentre au pays, ça sera vraiment une grande fête. Mais malheureusement, à part nos proches, nos amis, ils savent seulement qu'on a eu des médailles, sinon au niveau des autorités, il n'y a pas la prime olympique qu'on vous donne. Il n'y a pas d'encouragement, il n'y a pas de félicitations. Bon, je me dis, de toute façon, j'ai un objectif que je vais atteindre. Voilà, c'est un message que je vais apporter.
Mais vous avez quand même le sentiment maintenant, enfin aujourd'hui encore, d'avoir été un peu oublié quand même, vu par rapport à la richesse de votre palmarès.
Franchement, aujourd'hui, je me dis, si j'avais, dans les années 95-96, si j'étais découragé pour dire, mais... Écoutez, qu'est-ce que j'ai gagné? Et je dis peut-être que je n'allais pas arriver là. Je me dis toujours, je mets toujours, je suis toujours positif dans la tête, je suis jamais négatif. Je me dis, un jour viendra, les gens vont se souvenir de moi. Oui, c'est une fierté pour moi quand, lorsque j'attends la tête de plus médaillé, c'est Kone Omar, donc vraiment, je vais dire encore, sinon, à titre de reconnaissance, au même titre que les autres, c'est vrai, c'est pas pour comparer à ce qui n'est pas comparable, mais... Franchement, dit à toutes les reconnaissances, à part tout dernièrement à l'arrivée du président de la République Ouattara, que j'ai bénéficié des anciens gloires, une prime mensuelle. Donc à part ça, au type de reconnaissance, franchement, c'est pas à ces jours.
Malik,
souvent aussi, je me dis, tout ce qui est fait pour le pays, et puis j'ai ça vraiment. Je me rappelle en 2000, je me rappelle en 96. Un Tunisien qui était troisième aux 800 mètres, un Algérien qui était troisième aux 800 mètres avec moi. Je le vois, ce monsieur, il se jette par terre, il est en train de pleurer, il est en train de dire, mais ce monsieur-là, il a la médaille de bronze, il est en train de pleurer, qu'est-ce qui se passe? Et je lui pose la question comme ça au resto, il dit, mais toi qui as eu la médaille de bronze, tu pleures par rapport à quoi? Il dit, ce qui m'attend au pays, c'est Dieu seul qui sait. Effectivement, c'est vrai. L'année suivante, il y avait le championnat d'Afrique chez lui, je suis allé chez lui, j'ai vu, il me dit, mais toi, et la médaille d'or, avec deux médailles d'or que tu as eues. Franchement, il dit, mon cher ami, hélas, malheureusement, c'est hélas. Et il m'avait promis même de venir s'entraîner avec moi, il va venir rester chez moi. Il dit, mais tu vas dormir où? Moi, je n'ai pas eu de maison, il n'y a rien eu. Donc, franchement, dit, c'était choquant.
Il y a un vrai esprit de solidarité. Malik, c'est quand même, enfin, y a quand même un gros problème de reconnaissance. Là. Plus de 83 médailles et finalement, ben, pas grand-chose à l'arrivée en termes financiers déjà.
Non, mais c'est frustrant parce que moi, je suis né à Trècheville aussi. Donc, les problématiques d'Oumar, je les connais. Avoir trois repas par jour, c'est une vraie gageur quand on est né à Trècheville, quartier populaire, mais où la population ne roule pas sur l'or. Et quand on voit le parcours d'Oumar, quand on regarde tout ce qu'il a glané comme médaille, comme laurier pour la Côte d'Ivoire, et qu'il n'y ait pas cette reconnaissance-là, c'est frustrant. Et moi, ça me met en colère. Parce que on parle de médaillé paralympique, mais pour moi, c'est un médaillé olympique. Voilà, il faut qu'on arrête de faire un peu le distinguo entre les valides et les non-valides. Une médaille olympique est une médaille olympique. Quand je me souviens de ce qu'on a fait pour Gabriel Thiago, paix à son âme, qui a été médaillé d'argent sur un 400 mètres olympique, et que Oumar, qui a été médaillé d'or et qui n'a même pas une maison confortable où se poser avec de l'argent pour vivre confortablement. Et c'est ce même Oumar aujourd'hui qui partage ses connaissances avec des jeunes. Qui partage sa passion avec ces jeunes-là qui sont à Trècheville, qui vivent dans les mêmes conditions, c'est un peu énervant.
Allez, dans quelques instants, on va parler encore d'Oumar Koné et de sa vie plus personnelle, de son travail aujourd'hui d'entraîneur. Mais avant cela, c'est un de vos compatriotes, Oumar, qui arrive sur les ondes de RFI pour la première respiration musicale de Mondial Sport, MC One et Oxlade avec Mr. Romantic.
Avec toi que je me ramasse, oui. De toi je suis love, et que toi et moi dans la cova, et mets tes valises, on va s'en aller. Pass me, I'm a brand new man. I want love and I want to roam. Mommy, and you wanna be enemy. Reminiscing the memory.
MC One et Oxlade, Mr. Romantic, tiré de la playlist RFI de ce mois d'avril, à retrouver sur musique.rfi.fr.
Quand j'étais petit, il y a ma mère, elle ne cachait pas mes bras et mettait toujours ma mère au dehors. Et comme ça, il y a les dames qui l'interpellent pour dire, mais ah madame, tu ne caches pas la mère de ton enfant. Et dans réponse, elle dit, mais pourquoi je vais cacher la mère de mon enfant? Je suis fier de mon enfant, c'est mon enfant, Dieu me l'a donné comme ça. Quand j'étais plus jeune, on m'appelait à son temps un pain et demi. C'est un manchot, un pain et demi, c'est-à-dire un pain qui est long et puis le demi, l'avant-bras. Mais il faut dire que le handicap en Côte d'Ivoire est perçu comme la pitié. On nous voit comme les moins que rien. J'ai dit, il faudrait qu'il fasse quelque chose pour que les gens sachent que j'ai la valeur.
Oumar Koné dans le documentaire We Are People, réalisé par Philippe Fontana, diffusé en 2022 sur Canal+, est toujours disponible sur la plateforme MyCanal, un road movie qui retrace la longue lutte méconnue à travers les décennies pour l'accès au sport de personnes handicapées physiques ou mentales. Histoire racontée dans ce film par notre autre invité, Michael Jeremias. Bonsoir Michael.
Bonsoir.
Ancien joueur de tennis fauteuil, champion paralympique 2008, en double porte-drapeau de la France aux Jeux paralympiques de Rio, chef de mission de l'équipe de France pour les Jeux paralympiques de Paris. Et surtout ici, dans le cas qui nous concerne, très engagé pour la défense des droits des personnes en situation de handicap et contre toutes les formes de discrimination dont elles sont encore victimes aujourd'hui. Michael, comment est-ce que vous avez d'abord découvert l'histoire d'Oumar Koné ?
C'est Philippe Fontana, le réalisateur, qui a commencé à écrire le film début des années 2020 et cherchait un certain nombre de personnalités dans le monde entier qui pourraient nous permettre de raconter cette histoire finalement méconnue du grand public, qui est le combat qu'on a mené et comment le sport a changé la vie, hein, vraiment la vie des personnes handicapées dans le monde. Et donc, à un moment, il m'a parlé d'Oumar Koné et de son parcours, de son incroyable parcours. Vous en parlez avec lui depuis tout à l'heure, de ses titres, évidemment, mais aussi de ses engagements. Et ça a été une évidence pour nous, en tout cas dans la volonté de le contacter et de travailler avec lui sur ce documentaire.
Vous êtes allé donc à Abidjan, vous avez vu comment il vivait, comment il entraînait les jeunes. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué à la fois et peut-être le plus choqué à l'issue de cette visite ?
Ce qui m'a le plus marqué, c'est la personnalité d'Oumar. C'est un c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un de généreux. Quand on le voit entraîner les jeunes valides et handicapés ensemble, avec l'exigence qu'il a, mais aussi cette capacité à les embarquer un peu comme si c'était ses propres enfants. C'est quelque chose que moi je trouve d'admirable dans cette volonté de transmettre son palmarès, mais son humilité aussi. Et quelque chose de très fort. On connaît des grands champions qui n'ont pas l'humilité d'Oumar. Et puis ensuite, on est parti chez lui. On est parti chez lui pour justement faire cette interview, aller voir ses médailles. Et ce qui m'a choqué, mais c'est pas le fait de choquer, ce qui moi m'a interpellé, vous en parliez à l'instant, c'est le manque de reconnaissance de la nation, qui est pas propre d'ailleurs à la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de pays qui malheureusement ne reconnaissent pas leurs grands champions et leurs grandes championnes, olympiques ou paralympiques. Et c'est vrai que c'est dommage parce que c'est un formidable ambassadeur. C'est finalement, il le dit lui-même, hein, l'hymne ivoirien, il a été joué à Atlanta deux fois. Même le président ivoirien, il a pas le droit de tels honneurs. C'est le meilleur ambassadeur pour la Côte d'Ivoire. Donc oui, quand on est allé chez lui, où il a fallu que j'aisse mon fauteuil roulant à l'extérieur pour aller à l'intérieur de sa maison.
Oui, parce qu'on le précise, il le dit dans le documentaire, le logement est minuscule, 3 mètres carrés.
Oui, c'est ça, 3 mètres carrés. Et en fait, je me rendais compte en allant dans ce petit couloir en extérieur, quand il nous présente les maisons de ses voisins, on se doute bien, on regarde la physionomie de la petite ruelle, que ce n'est pas des maisons, effectivement. Et il vit avec sa femme et son enfant. Et quand vous rentrez, vous êtes un peu plus privilégié en habitant en France, vous êtes producteur ou réalisateur, puis vous posez des questions et vous dites bon, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en même temps, on n'est pas là, nous, à chaque fois quand on intervient ou qu'on fait intervenir des personnalités dans le documentaire pour traiter chaque cas individuellement. Mais en fait, on a eu la volonté, en tout cas avec Philippe, de créer une cagnotte pour aider Oumar Koné dans l'accession à un appartement plus salubre et plus grand pour lui et sa famille. Et donc, on a collecté un peu d'argent qu'on lui a donné et en espérant que ça lui permette de vivre dans de meilleures conditions. Mais en tout cas, oui, ce serait bien qu'un jour le gouvernement s'intéresse un peu au parcours de ce grand champion et de ce qu'il a apporté à Côte d'Ivoire et de ce qu'il transmet encore aujourd'hui à la jeune génération.
Oumar, pour rebondir sur ce que dit Michael Jeremias, quelle est votre situation financière actuelle? Vous vivez de quoi exactement? Est-ce que l'État ivoirien vous aide d'une façon ou d'une autre?
C'est qui aujourd'hui, d'abord, permettez-moi de dédier un grand merci à Michael et puis à Philippe. Franchement, ils m'ont donné un espoir encore de vivre. Grâce à eux, aujourd'hui, bientôt, il y aura un toit à moi-même. Vraiment, je ne croyais pas. Lorsqu'ils m'ont dit, mais écoute, on va trouver quelque chose pour toi, on va faire quelque chose pour toi pour que vraiment tu... Franchement, ces messieurs-là, ils sont plus que les hommes du cœur. C'est-à-dire, chaque jour, je les ai dit, chaque jour que Dieu fait, Je me réveille, je me couche, il est béni. Parce qu'il ne s'est pas donné à n'importe qui venir comme ça, aider une personne qui on ne connaît pas, faire un reportage sur moi et puis l'aider. Franchement dit, permettez-moi à votre canal de dire merci à ces messieurs. C'est les hommes du cœur. Vraiment, alors, merci beaucoup les gars.
Vous parliez tout à l'heure de ce que vous touchiez en tant qu'ancienne gloire, mais concrètement là, vous visiez de quoi maintenant?
Ancienne gloire, je touche d'ancienne gloire. À part si aujourd'hui si c'est pas ancien gloire, ça veut dire que je me demandais comment il allait faire pour vivre. C'est grâce à ancien gloire près de 300 000 francs CFA par mois. Mensuellement, chaque fin de mois, je touche 300 000 francs par mois des anciens gloires. Mais à part ça, il n'y a pas de revenus. Aucun revenu. J'ai vu au jour de jour, à part la cagnotte des anciens gloires. Maintenant, ces anciens gloires que je touche, vous voyez que je prends les enfants dans les ghettos. Aujourd'hui, je sensibilise les enfants dans les ghettos. Souvent même les enfants me interpellent, me disent, mais ah coach, toi-même tu n'as rien et puis tu nous donnes. C'est nous, on doit te donner. Il dit, ah, on va faire comment? Je suis obligé de faire, vous voyez. Aujourd'hui, j'ai dit merci à Dieu parce que j'arrive à dénicher d'autres dans les ghettos qui étaient hier, qui étaient alcooliques, qui étaient drogués avant, qui étaient vendus, qui étaient agressés, qui agressaient les gens aujourd'hui. Et aujourd'hui, qui s'intéressent à faire le sport. Jusqu'à même, il y en a d'autres même qui ont voyagé. Lorsqu'ils sont venus, ah coach, je vais travailler. Vous voyez. Donc franchement, dit à part la cagnotte des anciens gloires, il ne voit pas où il allait faire sortir l'argent pour vivre. Franchement.
Michael Jérémiaz, avec votre regard d'Européen et au-delà des problèmes matériels et financiers dont Marconi vient de rappeler, est-ce que l'Afrique a plus ou autant de travail à faire que d'autres pays ou régions du monde, même que la France d'ailleurs, pour se débarrasser d'un certain nombre de croyances et de préjugés sur les personnes en situation de handicap?
Bah, c'est ce que lui raconte quand il était petit. Il y a encore pas mal d'endroits en Afrique, mais pas qu'en Afrique d'ailleurs, mais peut-être un peu plus en Afrique, où on a encore on a l'impression que c'est une condamnation. Du tout-puissant, c'est une malédiction même de naître avec un handicap. Donc il y a évidemment tout un travail à faire de déconstruction de toutes ces histoires-là, de ces préjugés-là. Évidemment, ça n'a rien à voir. Mais donc il y a un vrai travail pour donner une place plus juste et c'est-à-dire normale. Mais en même temps, l'Afrique n'a pas grand-chose à envier à d'autres continents ou à d'autres pays qui aujourd'hui sont très en retard sur cette question-là. Il y a 1 milliard de personnes handicapées dans le monde. Aujourd'hui, 15% de la population mondiale, aujourd'hui, la minorité la plus discriminée en France, ce sont les personnes handicapées. Donc manifestement, on a un travail collectif à faire. Après, la réalité, c'est que les infrastructures dans certains pays d'Afrique ne sont pas du tout favorables à l'autonomie de personnes handicapées. La question du matériel médical, du coût du matériel médical, que ce soit des fauteuils, que ce soit des prothèses, en tout cas d'un certain nombre d'outils qui permettent l'autonomie. Et puis ensuite, s'il y a des pathologies qui en Afrique existent encore, alors que dans un certain nombre de pays d'Europe, notamment aux États-Unis, n'existent plus, notamment autour de vaccins. Et puis moi, je me suis rendu compte de ça au premier jeu auquel j'ai participé à Athènes en 2004, c'est que une amputation dans certains pays d'Europe versus certains pays d'Afrique, c'est pas la même chose. Et puis il y a des malformations qui n'existent plus en Europe et qui existent encore aujourd'hui en Afrique. Donc oui, c'est pas exactement la même chose. Mais la réalité, et ça, il n'y a pas de question de croyance ou d'origine ou de culture. Une personne handicapée reste un être humain avec ses particularités quand il y en a. Et donc c'est un travail collectif. Et le sport est un outil puissant pour nous aider justement à changer de regard les uns sur les autres.
Justement le sport sur lequel on peut miser malgré les freins que constitue le coût du matériel pour les personnes en situation de handicap. Le sport, c'est quand même un formidable outil à la fois de construction ou peut-être de reconstruction d'une personne qui a subi un accident de la vie.
Après l'accident de la vie, le sport intervient très rapidement dans votre parcours de reconstruction dès l'hôpital, parce qu'en fait, du jour au lendemain, par exemple moi qui me suis retrouvé en fauteuil roulant, du jour au lendemain, vos bras deviennent vos jambes. Le sport, c'est l'outil qui va vous permettre d'être autonome. Mais pas autonome pour pouvoir aller chercher un job quelques semaines après, autonome pour vous habiller, autonome pour vous de faire à manger, pour vous déplacer, pour aller dans votre douche tout seul. Ça paraît évident pour vous, mais nous, c'est un apprentissage complet. Et ensuite, le sport, c'est un outil, donc un formidable outil d'autonomie, d'indépendance. C'est un outil qui permet aussi de réduire les inégalités, puisqu'on joue selon les mêmes règles. C'est aussi un endroit où on retrouve confiance en soi, où on se refamiliarise avec son corps abîmé, son corps qui ne correspond plus aux standards esthétiques tels qu'on les imaginait ou qu'on les voyait dans ces magazines à la con. Et puis ensuite, c'est aussi un formidable outil pour créer du lien social, et c'est de ça dont on parle. C'est à ça que ça sert le sport de très haut niveau, les médailles, tout ça, c'est très bien, mais c'est pas ça qui change profondément l'existence. On le voit avec Oumar, c'est pas le fait d'avoir eu des médailles qui a fait que ça a changé la perception que le monde avait de lui. Lui, il avait déjà déjà une maman qui évidemment l'acceptait comme il était. C'était pas un sujet pour elle qu'il soit né avec un avant-bras en moins. C'est son fils, elle l'aime, point final. Donc oui, le sport, c'est un outil politique puissant dont on minimise encore le pouvoir et l'utilité.
Michael, vous étiez donc le narrateur dans We Are People. Vous êtes aujourd'hui sur un autre projet de documentaire avec Philippe Pontana. On profite que vous êtes là pour en parler un petit peu. Oui. Cette fois sur le sport féminin et dans ce domaine aussi, c'était une longue bataille pour le sport féminin, sa reconnaissance, son accès à l'égalité et surtout lutter contre les préjugés et les discriminations qui, là encore, n'ont pas manqué. Alors, le documentaire, le projet s'appelle Let Me Run, Laissez-moi courir en français. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Oui, un peu dans la continuité de We Are People, c'est de continuer à mesurer en fait l'utilité et la puissance du sport comme outil politique et social. En fait, nous n'avons rien inventé avec We Are People et pour les personnes handicapées, c'est rien d'autre que ce que vivent les femmes depuis la nuit des temps. On a dit aux femmes pendant très longtemps qu'elles n'avaient pas le droit de faire de sport, qu'elles n'avaient pas le droit de s'exhiber, de se mettre en scène. Coubertin, quand il crée les Jeux Olympiques, les femmes n'y ont pas leur place, elles n'ont pas le droit. Encore dans les années 70-80, dans le cyclisme, Jeannie Longo lui interdisait, quoi, on ne sait pas qu'on lui interdisait, c'est qu'on le disait. Les grands champions de l'époque lui disaient qu'ils trouvaient ça pas esthétique et qu'une femme ne devait pas faire du sport comme ça. Encore aujourd'hui, même dans des pays où la question de la place de la femme n'est plus vraiment un combat essentiel, la réalité c'est qu'on ne leur laisse pas faire du rugby, on ne leur laisse pas faire du foot, on ne leur laisse pas faire des sports de combat. Et donc on s'est dit qu'aujourd'hui il fallait continuer avec cet outil qui est le documentaire, raconter quel a été le combat pour qu'aujourd'hui des femmes puissent être libres, puissent refuser cette injonction très patriarcale comme quoi une femme pourrait pas disposer de son corps comme elle l'entend, pourrait pas organiser son emploi du temps comme elle l'entend. Et aujourd'hui, le sport, ça permet à des femmes de vivre mieux, dans de meilleures conditions, de vivre plus longtemps aussi, pas uniquement en termes d'âge, mais en termes de qualité de vie, plus de liberté, disposer de son corps. On va aller voir une bodybuildeuse américaine de 83 ans, Ernestine Shepherd, qui elle a décidé qu'après 50 ans, refuser cette injonction comme quoi les femmes ne pouvaient plus avoir un corps sculpté, un corps dont elles étaient fières. Et donc voilà, donc on s'intéresse aussi au combat des femmes. C'est une minorité, même si elles sont très très nombreuses pour le coup, mais c'est une minorité dans l'accès à la pratique du sport, l'accès à l'éducation. Et voilà, donc c'est un nouveau projet qui vous verra le jour l'année prochaine.
Parfait, femmes et personnes en situation de handicap, pour le combat pour le respect des différences et surtout effectivement l'accès à l'égalité de la pratique. Merci beaucoup Michael Jeremias d'avoir été quelques minutes avec
Merci
nous.
À vous.
Bonne préparation des Jeux Paralympiques de Paris avec l'équipe de France.
Merci.
Oumar Kone, justement, et Michael Jeremias qui vous salue, on rappelle, vous êtes le parathlète le plus médaillé au monde. Vous êtes aujourd'hui entraîneur, transmetteur de savoir. Alors, on va faire un petit point sur vos activités actuelles. D'abord, combien est-ce que vous avez de jeunes, je crois d'ailleurs valides et handisport, sous votre responsabilité actuellement?
J'ai totalisé au total 53 athlètes, 15 filles, 5 handisport. Les 5 en disport, il y a un qui a eu un accident de brûlis de gaz. Il a eu une amputation. Donc il a tellement perdu l'espoir. Il dit non, que tout est permis, tu peux faire l'athlétisme. Il s'est distingué. Il arrive, dans le début, c'était pas facile du tout parce qu'il était valide. Puis après, il a eu un accident, il a eu une amputation. Donc vous voyez que du coup, il est déphasé. Donc au total, 53 jeunes. Voilà, 53 jeunes. Compte tenu l'emploi du temps aussi, je tiens l'emploi du temps. Par rapport à l'emploi du temps, pour voir, il y a d'autres qui ont le coup le matin. Il y a d'autres qui n'ont pas le coup le matin, je le suis. Il y en a d'autres qui ont le coup l'après, qui n'ont pas le coup l'après-midi, je le suis. Donc à tout moment, je suis au fou moulin avec ces jeunes pour les transmettre mon savoir. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi quand on...
Oui, parce que c'est le plus important. Vous transmettez des savoirs, vous êtes un éducateur, en fait. Vous êtes, pas un père, mais pas loin, en tout cas. Comment vous voyez exactement?
Oui, en fait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai vu ma subvention d'aide d'État. Voilà, c'est avec ma subvention d'aide d'État et puis souvent aussi avec les bonnes volontés. Souvent, quand ils m'envoient les bonnes volontés, on me donne des t-shirts, on me donne des équipements, ils viennent les partager. Donc quand un athlète a une paire de chaussures, il a un maillot, il est content, il est galvanisé. Sinon, c'est avec les bonnes volontés. Voilà, souvent aussi, j'arrive à organiser mon meeting pour les encourager. Tout ça là, donc je vais toujours voir les bonnes volontés parce que je n'ai pas de sponsors, je n'ai pas de partenaires. C'est les bonnes volontés qui font parler les cœurs, vraiment qui sont sensibles. Il y en a d'autres qui sont tellement sensibles. Bon, on t'achète l'eau, on achète la boisson pour les athlètes. Vous voyez, donc quand c'est comme ça, les jeunes aussi se déplacent. Parce que, comme je l'ai dit, il y en a d'autres qui sont équipés dans les ghettos. Hier, ils étaient dans les ghettos. Aujourd'hui, vraiment, quand je le vois, il a un sourire, il est content, il voyage, il fait ses compétitions, il se comporte vraiment comme un homme normal. C'est-à-dire, il est devenu normal. Vous voyez, donc nous les entraîneurs, on est plus que parents. Parce que nous, on passe toute la journée avec l'enfant. Quand il vient le matin, il a la mise, c'est le qu'est-ce qui se passe. Ah, hier, je n'ai pas mangé. Bon, tiens, va les manger.
Malik, l'implication d'Oumar Koné, l'éducation des jeunes en Côte d'Ivoire, j'imagine que c'est extrêmement important pour les jeunes Ivoiriens qui en ont, comme d'autres pays d'ailleurs, bien besoin.
Je pense que c'est le témoignage qu'on peut bien vivre son handicap. C'est-à-dire qu'une personne invalide n'en est pas moins une par rapport à une personne valide. Donc Oumar est le témoignage aujourd'hui qu'on peut bien vivre son handicap. Au-delà de ça, il transmet son savoir. Il essaye de... Parce que Trècheville, moi je suis né à Trècheville, c'est pas un quartier facile. Et grâce à son activité, il sort des jeunes de la délinquance, il sort des jeunes de la drogue, du banditisme. Et je pense que c'est quelque chose à encourager et à saluer. Et puis j'ai une question pour toi, champion. Où est-ce que vous vous entraînez?
Bon, on s'entraîne au stade Champrou.
La piste.
Voilà, nous, on s'entraîne au stade Champrou. C'est vrai, la piste, elle n'est pas praticable.
Ah ben, c'était ma deuxième question. C'était le sens de ma question.
Voilà.
C'est la vétusté des matériels qui n'est pas non plus, d'ailleurs.
Mais... Voilà, les matériels aussi, ils ne sont pas adéquats. Parce qu'on se débrouille avec les moyens de bord qu'on a. Parce que souvent, même le stade Champrou, il faut payer par mois. Voilà, il faut payer par mois pour faire les entraînements. Et souvent aussi, quand il y a les matchs, nos séances sont suspendues. Donc, on se débrouille pas mal, on se débrouille comme ça. Souvent, on se déplace, on va au campus. Il y a des jours, on travaille au campus, il y a des jours, on travaille à la plage, on se déplace.
Oui, mais ça fait loin. Trècheville jusqu'au campus, ça fait loin. Et qui paye le transport? C'est toi, j'imagine.
Souvent, il y en a d'autres qui n'ont même pas de transport. Dans la deuxième, pas transformé, donc tu es obligé de mettre la main dans la poche.
Oumar Koné, parmi tous les élèves que vous avez vu passer ces dernières années en tant qu'entraîneur, il y en a une qui a fait son chemin quand même. Elle s'appelle Marie-Josée Talou. Vous l'avez connue. Comment est-ce que vous l'avez rencontrée? Vous aviez senti tout de suite qu'elle avait le talent pour aller au plus haut de l'athlétisme international?
On avait créé à son temps un club, on appelait Club AC. Donc on cherchait les athlètes, on avait un jeune qui était dans une école, on a dit bon, envoie-nous tous tes élèves, tous tes camarades pour les faire venir. Et c'est comme ça qu'on l'a détecté. Quand je l'ai vu, on allait faire la compétition, on les a déversés sur la piste tous. Donc après l'avoir fini la compétition, elle, je l'ai vu comme ça, il dit mais toi, tu as les atouts d'être une athlète. Et puis ils étaient deux, il y a une qui faisait les 800 mètres, mais celle des 800 mètres, elle n'a pas continué, mais malheureusement elle a arrêté tôt. Mais Talou, elle, il n'y a pas de problème, elle a continué. Moi-même, personnellement, j'ai allé acheter les équipements. J'ai dit, bon, on va commencer. Et c'est comme ça, on a commencé petit à petit. J'étais athlète. En même temps, elle s'entraînait avec moi. En même temps, elle s'entraînait aussi avec mon coach. Et c'est comme ça, Talou, elle a explosé.
Et quand
donc, il y a les gens qui me... Voilà, les gens me demandent, mais comment tu as fait? Elle n'a pas un bon départ. Il dit, mais il n'avait pas de matériel.
Quand vous voyez aujourd'hui les athlètes ivoiriens au plus haut niveau, alors Marie-Josée Talou, mais aussi Ben Youssef Meïté et d'autres, qui d'ailleurs vous considèrent en plus comme une source d'inspiration, ça vous fait quoi?
Ben ça me donne, lorsque je vois Marie-Josée Talou, je vois Ben Meïté, je vois Arthur Cissé, c'est une fierté pour moi de voir nos compatriotes. Après nous, nos générations, on a les petits champions encore qui sont, et vraiment ça me fait plaisir. Donc, aujourd'hui, c'est pas que seulement il y a Talou, et puis même au niveau des Zambies, on a Tessier. Bientôt, il va aller chercher son minima. Il a fait minima B pour les Jeux paralympiques. Voilà, donc on a plein comme ça. Voilà, donc lorsque tu vois un athlète se distinguer comme ça, tu vois l'enfant, il voyage, il revient, il est content, il est tout aéré. Voilà, c'est-à-dire que toi-même, l'entraîneur, tu es content, tu es heureux.
Et tout ça, c'est grâce à vous, Oumar Koné, ces talents ivoiriens qui ont émergé. Vous restez évidemment avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On va faire une seconde pause musicale, toujours dans une ambiance ivoirienne. Kiff No Beat, c'est comment? C'est comment sur RFI à vous mettre dans les oreilles autant que vous voulez grâce à la playlist de la radio pour la retrouver musique-rfi.fr. À travers l'histoire d'Oumar Koné, c'est le paralympisme dont on parle aujourd'hui, la concrétisation à travers le sport, du droit au respect de la différence, du combat pour l'émancipation et facteur d'intégration. Une longue histoire qui sera bientôt relatée dans une exposition à Paris, Histoire paralympique de l'intégration sportive à l'inclusion sociale. Ce sera du 11 juin au 29 septembre au Panthéon. Et en avant-première, l'un des commissaires de l'exposition, Sylvain Ferrez, est en ligne avec nous pour nous en parler. Bonsoir.
Bonsoir.
L'exposition est organisée dans le cadre de ce qu'on appelle l'Olympiade culturelle, hein, cette grande série de manifestations pluridisciplinaires étalées jusqu'au 8 septembre, date justement de la fin des Jeux paralympiques. D'abord, Sylvain Ferrez, pourquoi le Panthéon, ce lieu qu'on sait évidemment très solennel, réservé aux grands personnages de la nation, où sont entrés d'ailleurs en février les résistants Missak et Mélanie de Manouchian, c'est un endroit particulier, c'est une volonté de faire un peu écho à la grandeur de l'action des personnalités du paralympisme?
Oui, je crois que le Panthéon et le Centre des Monuments Nationaux qui sont à l'origine de cette exposition avaient une volonté d'accueillir quelque chose plutôt sur le paralympisme dans le contexte de Paris 2024 et effectivement de rendre, j'allais dire, hommage à des grands hommes un petit peu particuliers ou en tout cas un petit peu différents qui pouvaient d'ailleurs être des grands hommes de petite taille puisque vous savez que les personnes de petite taille sont une des catégories des Jeux paralympiques. Je crois que le Panthéon accueille des grands hommes qui à la fois font des inventions importantes, des inventions scientifiques. Parmi ces grands hommes, il y a par exemple Louis Braille, qui a inventé un système qui permet de lire à des personnes qui ne voient pas. La deuxième chose auquel le Panthéon est très attentif, c'est que ces grands hommes défendent des valeurs, et vous avez cité notamment les valeurs d'émancipation, et je crois que ce mouvement incarne un certain mouvement d'émancipation, un certain mouvement de reconnaissance de la diversité qui est aussi incarné au Panthéon, au travers de grands personnages comme Michel Scheer pour l'abolition de l'esclavage, ou comme plus récemment Joséphine Baker qui aussi d'une certaine manière représente une certaine diversité et une émancipation de population, on pourrait dire, qui était moins visible et moins visible dans les grands lieux qui représentent et qui reconnaissent les grandes personnes de la République.
Il y a trois périodes très distinctes dans l'histoire du paralympisme qui est née, on va dire, véritablement à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1948. On sait que les premiers vrais Jeux paralympiques, comme on les appelle maintenant, ça date de 1960. Mais c'était encore très restreint au niveau des catégories de handicap. Et puis après, il y a eu différentes périodes. Vous citez 1989, notamment une certaine mondialisation du paralympisme. Et puis aussi 2012, les Jeux paralympiques de Londres, on l'a vraiment senti là qu'il y avait un vrai tournant populaire qui s'est manifesté.
Oui, c'est aussi des changements en réalité qui structurent la transformation des organisations qui portent les Jeux. Il faut comprendre que les Jeux de Stockmanville sont des Jeux qui sont portés par un neurochirurgien du sein de l'hôpital et qui ne concernent que les blessés de la colonne vertébrale, les blessés médulaires, donc les gens qui sont en fauteuil roulant. Et que les Jeux de Rome dont vous parlez en 1960 sont une délocalisation des Jeux de Stockmanville. Donc voilà, créer un lien avec le mouvement olympique, une forme de mimétisme, mais reste des Jeux qui concernent que les paralysés. En réalité, le paralympisme en tant qu'institution né avec l'IPC en 1989 est le résultat de l'alliance de plusieurs fédérations internationales qui représentent en fait des déficiences différentes. Et donc, dès lors que l'IPC est créé, l'IPC négocie avec le CIO d'abord le cahier des charges pour les villes hôtes d'accueillir à la fois les Jeux olympiques et paralympiques. Et puis, à partir de 2012, on va dire qu'on passe un petit peu au niveau au-dessous, puisque les deux événements deviennent intégrés, et donc on arrive à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on parle des Jeux olympiques et paralympiques comme un seul et même événement. Donc je pense que ces différents jalons montrent surtout comment ce mouvement se structure et s'organise et dépose finalement des organisations ou des institutions qui transforment très très profondément le rapport au handicap.
En quelques mots, Sylvain Ferrez, le fil conducteur de l'expo, c'est aussi l'évolution de la perception des sportifs handicapés. On est passé, j'allais dire, d'une certaine vision un peu misérabiliste du handicap à la mise en avant du corps et surtout de la fierté de ces personnes qu'on appelle aussi des personnes autrement capables. Elles ont une autre capacité.
Oui, oui. Ben, disons que les prémices, comme je vous l'ai dit, sont liées à l'hôpital et à la rééducation. Il s'agissait de réintégrer la norme, de recouvrer de l'autonomie en d'une certaine manière compensant le handicap et en ayant comme horizon le retour dans la norme. On va dire qu'à partir des années 60 et 70, ce mouvement va s'imposer petit à petit comme un mouvement, singulier et à part entière, qui ne revendique pas un retour dans la norme, mais la possibilité d'être performant effectivement autrement. Et pour cela, ben, il suffit de changer les règles du jeu. Avoir des incapacités, avoir une déficience, ça n'est pas être invalide, ça n'est pas ne pas pouvoir être performant du tout. C'est ne pas avoir certaines capacités, mais si des jeux permettent d'en exploiter d'autres, évidemment les développer et les développer à très haut niveau. Et c'est ce dont ces jeux sont la démonstration d'une certaine manière.
On découvrira effectivement tout ça à l'occasion de cette exposition donc, qui démarre au Panthéon du 11 juin jusqu'au 29 septembre. Histoire paralympique de l'intégration sportive à l'inclusion sociale, exposition évidemment accessible bien sûr dans les meilleures conditions de confort, notamment pour les déficients visuels, avec toutes les traductions nécessaires en langue des signes française et internationale. Merci beaucoup Sylvain Ferrez d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci beaucoup Oumar Koné qu'on rejoint une toute dernière fois à Trècheville. Très bonne continuation à vous, grand espoir pour vous deux, et bravo pour votre travail en faveur de l'éducation des jeunes et notamment des personnes également en situation de handicap.
Merci
également Malik Tao d'être resté avec nous aujourd'hui. On vous retrouve également sur Canal Plus Afrique pour vos consultants en tant que consultant basket, mais aussi sur Afro Buzzer Time, une émission sur le basket africain qu'on retrouve très régulièrement sur YouTube. Un grand merci également à Hélène Avril pour la préparation et la réalisation de cette émission, retrouvée en podcast de rattrapage dans quelques minutes sur RFI.fr et sur notre page Facebook Mondial Sport RFI. Demain ce sera un Mondial Sport tout feu tout flamme, si l'on peut dire, puisque ce sera la flamme olympique qui sera à l'honneur. Elle sera allumée mardi sur le site historique d'Olympie. On vous parlera de son histoire, de son parcours, notamment en France, et de son arrivée, bien sûr, le 26 juillet prochain pour la cérémonie d'ouverture. Dans un instant, le journal, puis l'atelier politique avec Frédéric Rivière pour l'antenne en français, ou Légendes urbaines pour le décrochage en full day. Bonne fin de soirée.